RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Dr Love, il est là, Yoann Durand, le maître Yodu, comment ça va?
Salut à tous, salut Benoît, bah ça va impeccable.
Eh ouais, on n'arrête pas de faire gagner des cadeaux, ça y est, ça revient. On pourrait faire gagner une journée avec Yoann Durand, hein, pourquoi pas, ça peut être une idée.
Oui, ah bah là, il faut être motivé, attention, c'est deux entraînements par jour et surtout, il faut faire la sieste.
Ah ouais.
Une heure de sieste. Alors, en ce moment, c'est facile, il y a le Tour de France.
Ouais.
Franchement, il n'y a pas mieux pour t'endormir.
Ouais, c'est pas faux.
C'est la régalade de la sieste.
Bon, tout va bien, Yoann, t'es en forme?
Impeccable.
Malgré la chaleur qui nous touche, forcément.
Ouais, exactement.
Un peu partout en France. C'est d'ailleurs le thème dont on va parler aujourd'hui. Comment on s'adapte à la chaleur? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en période de canicule? Les horaires d'entraînement, l'hydratation, l'adaptation des allures, la gestion de la fatigue. Pour en parler avec nous, on a convoqué l'un des torsionnaires de Yoann Durand, l'homme qu'il redoute dès qu'il met un pied à Font-Romeu, le responsable du protocole hypoxie, surtout le responsable de la section scientifique du Krebs de Font-Romeu, Greg Doucande, qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. On l'a rencontré en octobre, on vous rassure, il est complètement barjot, il fait du mal à ses athlètes, mais il vous donnera les bons conseils justement pour s'adapter à la chaleur dans ces périodes si compliquées. On rappelle également les bons réflexes, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Strava, allez sur Instagram, allez vous abonner sur les plateformes de téléchargement, puis on aura un cadeau en fin d'épisode. On mettra en avant la marque Ayak, fondée par un champion olympique de biathlon, Vincent Defrane. Ayak, c'est une marque éco-responsable. On fera gagner un débardeur aujourd'hui, donc restez bien à l'écoute, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, enlevez les t-shirts, on parle de chaleur aujourd'hui.
RMC Running.
Avec Grégory Doucande qui est avec nous en direct de Font-Romeu. Salut Greg.
Salut à tous, bonjour.
On est ravis de te retrouver, merci d'avoir accepté l'invitation. T'as envie de te faire mal en fait, Yoann, c'est pour ça que tu nous as dit qu'il faut appeler Greg?
Ouais, exactement, ouais. J'aime bien sa douce voix là quand il te motive et qu'il te crie dessus pour te booster. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas entendu, donc je me suis dit qu'il faut l'inviter au podcast. Ouais.
Voilà, pour tout vous dire, Greg, c'est vraiment le responsable du secteur hypoxie à Font-Romeu, à la chambre hypoxique. Allez voir sur nos réseaux, on y était allé en octobre.
Hypoxie et chaleur, du coup aussi.
Hypoxie et chaleur, tu as raison. Et Greg prend un malin plaisir à rester enfermé toute la journée dans cette salle de torture. C'est un peu ça, Greg. Hein. Donc toi, tu planes à 4000 mètres d'altitude toute la journée, en fait.
Ouais, malin plaisir, je dirais pas, parce qu'autant l'altitude, ça se supporte bien une fois qu'on est acclimaté et tout, passer ses journées à 5000 mètres, ça le fait. Autant quand on fait des acclimes à la chaleur qui fait 38 degrés et 70% d'humidité, c'est pas forcément super rigolo, même pour nous qui faisons rien dans la salle, quoi.
C'est intéressant ça déjà. Tu supportes plus, enfin c'est plus dur à supporter la chaleur et l'humidité que l'altitude. Ça c'est déjà intéressant.
Ah ouais, en passif c'est clair.
Qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est le taux d'humidité ou c'est la chaleur tout simplement d'ailleurs? Les degrés qui augmentent?
Bah, c'est le cumul des deux parce que tu peux avoir du 35, 36, 70% qui passe bien. Mais dès que tu passes à 37, 38 degrés, dès que tu passes en fait au-delà de la température de ton corps, quoi, qui est à peu près à 37 degrés, là ça devient vraiment pénible. Et si tu n'as pas d'humidité, bah, tu peux monter jusqu'à 39, 40, ça va bien. Mais dès que tu passes au-dessus, ça devient un petit peu plus pénible, quoi, sans humidité.
Yoann, vous avez joué sur la chaleur quand tu faisais un protocole hypoxie, toi? Ou non?
Non, jamais. Jamais, parce que je ne suis jamais allé faire des compétitions en Asie. Moi, mes marathons, j'essaye de les choisir en Europe parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple justement pour s'acclimater et s'adapter. Après, quand tu n'as pas le choix, que c'est un grand championnat, typiquement, là, les athlètes sont sélectionnés pour les championnats du monde à Tokyo. Bah, eux, et typiquement sur marathon, il faut justement s'adapter à courir dans ces conditions-là. Moi, je me rappelle, en 2010, j'avais été sélectionné au championnat du monde de semi-marathon sur route en Chine. Et j'avais fait l'erreur de venir le préparer à Font-Romeu. Mais à l'époque, l'hypoxie n'existait pas et la thermoroom n'existait pas. Tu ne t'entraînais pas dans la chaleur. Donc, je m'étais entraîné dans un environnement froid et sec. Et j'avais pris l'avion et je m'étais retrouvé dans un environnement chaud et humide. Bah, j'avais explosé. Explosé complètement. Ouais, j'étais pas prêt.
Ça doit se bousculer chez toi, là, Greg, en ce moment, parce que c'est la prépa des championnats du monde. Comment on fait pour gérer tous les créneaux alors et tous les protocoles différents? Parce que là aussi, les distances et les épreuves sont différentes.
Ouais, ben là, ça va commencer à arriver sérieusement, là, parce qu'il y a, il y a encore les France, notamment en athlée, là, qui sont fin juillet, début août. Puis après, ça va vraiment s'accélérer sur le mois d'août, avec beaucoup de demi-fondeurs qui viennent préparer les mondiaux, avec les marathoniens, mais aussi voilà, des gars sur des gars et des filles sur 3000 steeps, sur 1500, qui ont déjà réservé des protocoles d'acclim chaleur. Et puis ça vient s'enchevêtrer avec aussi l'ensemble des triathlètes, paratriathlètes de l'équipe de France, qui préparent eux la grande finale en début octobre en Australie.
Ah ouais.
Donc où pareil, ils vont faire de la chaleur aussi. Donc voilà, plus un peu des vététistes qui vont traîner pour préparer les mondiaux qui sont en septembre. Donc on va avoir un mois d'août assez chargé, on va devoir jongler avec les plannings, ça c'est clair, heureusement qu'on a deux salles.
Sans divulguer de secret, comment tu établis un protocole chaleur pour un marathonien par exemple? Combien de temps ça dure? Combien de séances par semaine? Qu'est-ce que tu fais dans les séances d'ailleurs?
Ben après, tout dépend quelle plage, on va dire, sur la clim chaleur le coach et l'athlète veulent utiliser. Puisqu'en gros, ce qu'on dit, c'est que pour que tout le monde soit acclimaté à peu près comme il faut aux alentours de 12 à 14 séances. Donc après, ces 12 à 14 séances, tu as différentes stratégies pour les faire. Soit tu t'y prends, entre guillemets, un petit peu longtemps à l'avance. Tu places un gros cycle un petit peu longtemps à l'avance. Et après, tu maintiens de l'acclimatation avec des rappels. Donc tu places tes 14 séances, par exemple, un mois et demi ou deux mois avant, et puis après tu viens me faire des rappels deux, trois fois par semaine comme ça jusqu'à l'événement.
Ouais.
Soit au contraire tu te dis je veux pas m'emmerder avec la clim avant, je veux le faire plus ou moins un petit peu sur le dernier mois ou le dernier mois et demi, et dans ce cas là je viens me passer 14 séances, 14-15 séances sur le dernier mois ou dernier mois et demi. Ça dépend comment tu le jongles avec la planif, quoi.
C'est ce qui est très dur, ça, pour un athlète, Johan, et je me souviens de toi d'ailleurs de ta problématique l'hiver dernier, c'est que on décide avec le coach et avec Greg d'un protocole chaleur ou hypoxie, mais on n'a pas les bénéfices directs, on ne sait pas vraiment ce que ça t'apporte concrètement tout de suite à l'entraînement, donc c'est une façon de s'entraîner différente, c'est un choix que tu fais dans ta préparation en fait.
Ah, c'est un choix que tu fais qui peut s'avérer payant, mais effectivement, c'est pas. Je veux dire, quand tu vas faire 10 x 400 sur la piste, à l'arrivée, tu as le chrono et à la fin de ta séance, tu sais ce que tu as fait, tu as l'impression d'avoir progressé. Si les chronos sont bons, bah, tu repars en confiance, tu as quelque chose de matériel. Quand tu vas en hypoxie ou que tu vas en thermoroom, c'est ça, c'est que tu as l'impression de subir, de souffrir à des allures qui sont. Presque honteuse pour toi, tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je cours en hypoxie, je cours à 10-11 km/h.
Ouais,
tu vois, c'est là, tu te mets pas en confiance quand tu cours à 11 km/h, mais tu sais que c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose, c'est sur le long terme, il faut l'accepter. Et par contre, la difficulté, c'est d'encaisser, justement, c'est pour ça que moi, j'aime bien quand même le faire en amont, de préparer le truc, c'est que des fois, bah, tu dors mal après. Ça peut avoir une incidence du coup bah, sur ton sommeil, sur bah, du coup sur ta séance du lendemain que tu vas faire en extérieur. Tu vois, tu as quand même pas mal de paramètres. En fait, tu ajoutes un peu de complexité à ton entraînement, tu vois. Donc effectivement, c'est là où l'athlète il doit être hyper vigilant avec l'entraîneur et avec Greg le responsable pour vraiment adapter et ajuster au mieux les entraînements. Parce que ça complexifie vraiment la préparation. Ouais.
Greg, allons-y, parce que c'est une période qu'on affronte tous quand on est coureur amateur. C'est pour ça qu'on le traite dans RMC Running. On a subi plusieurs vagues de chaleur. D'autres vont arriver, c'est inéluctable. On peut faire ensemble le rapport bénéfice-risque de s'entraîner en pleine chaleur. Alors évidemment, il faut éviter les heures les plus chaudes. C'est le principal conseil qu'on peut donner. On parle tout le temps des risques. Greg, est-ce qu'il y a des bénéfices pour un coureur amateur à s'entraîner en pleine période de canicule?
Alors, ben ouais, il y a forcément des bénéfices physiologiques à l'entraînement à la chaleur. Souvent, on parle de la chaleur pour dire il faut faire un cycle d'acclimatation à la chaleur parce que si on va performer dans l'environnement chaud, on a une compète où il va faire chaud, donc il faut être habitué et habituer son corps. Mais il y a aussi plein de bénéfices, et notamment un bénéfice physiologique à la chaleur qui est l'augmentation du volume de plasma dans le sang. Donc, en gros, typiquement, quand on fait un cycle d'acclimatation à la chaleur de 14 séances, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir mécaniquement une augmentation de la quantité de son sang, et cette augmentation de la quantité de sang fait qu'on augmente son débit cardiaque et donc on augmente sa VO2 max. Donc ça veut dire que aujourd'hui, même faire un cycle d'entraînement à la chaleur de 14 jours, il y a des bénéfices dans tous les sports d'endurance parce qu'on augmente sa VO2 max. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui,
quasiment tous les sportifs en sport d'hiver qui préparent les Jeux de Milan
ouais.
font des cycles d'adaptation à la chaleur. Pour en ski de fond, en biathlon, en ski alpinisme, tous les sports d'endurance d'hiver, ils utilisent la chaleur comme moyen d'augmenter leur VO2 max. Donc il y a des adaptations liées à la sudation pour faire en sorte que son corps se refroidisse mieux, pour moins galérer quand on court à la chaleur. Mais il y a aussi des adaptations physiologiques, c'est-à-dire que bah, cette chaleur au final qu'on subit, quand on est sportif d'endurance, on peut même la tourner entre guillemets à son avantage.
Mais
par
ouais.
contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est voilà. clair, et il faut y aller progressivement quand on subit notamment les premières vagues de chaleur.
Johan, tu vois des bénéfices quand on traverse une période de canicule ? Forcément, tu adaptes ton entraînement, mais est-ce que tu te sens plus fort quand tu sors de cette période ?
Non, moi, j'ai jamais vraiment fait tester ça et aller courir sous les... Alors. Tu peux y voir des bénéfices si, par exemple, typiquement, il y a 2 ans, je préparais les championnats d'Europe à Munich de marathon.
Ouais.
Et le départ, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de nous faire partir à 11h30 du matin.
Je me rappelle.
Ça nous faisait une arrivée à 13h30. Alors, par chance, ce jour-là, il n'avait pas fait très chaud. Mais je m'étais entraîné justement dans des conditions un peu similaires, à la chaleur, avec des horaires de départ de séance à 11h30. Donc autant te dire que des fois, dans le sud-ouest, il fait très chaud. Et je m'étais préparé un petit peu comme ça, à m'acclimater de cette façon-là. Du coup, oui, j'avais l'impression d'être... J'étais prêt, tu vois, s'il avait fait chaud ce jour-là. Alors là, par chance, il n'avait pas fait chaud. Mmh. Mais s'il avait fait chaud, je pense que j'aurais été prêt, tu vois. Mais par contre, ce que dit Greg, c'est assez nouveau parce que, voilà, j'ai l'impression... Enfin, il y a quelques années, on te déconseillait plutôt de t'entraîner... Enfin, ce n'était pas forcément conseillé, même pour les athlètes de très haut niveau, mmh. de t'entraîner dans des... comme ça, à la chaleur. Et aujourd'hui, on se rend compte que s'entraîner dans la chaleur, c'est presque, ça revient même que si tu t'entraînais en altitude, grosso modo,
et
d'un
si
point
on,
de vue métabolique.
Et si on ouvre à tous les coureurs sur cette problématique, Greg, est-ce que ça fait perdre du poids plus rapidement quand on court pour perdre du poids ? Est-ce que c'est accéléré en période de forte chaleur ?
Ça fait perdre de l'eau, ouais.
ouais.
Alors, ouais, c'est clair que tu vas perdre du poids. Par contre, ce poids que tu perds sur un entraînement à la chaleur, il faut bien le monitorer et il faut le reprendre parce que, comme dit Yodu, tu perds de la flotte. Et ça, c'est pas bon parce qu'à terme, tu déshydrates. Et si tu es déshydraté de manière chronique, tu ne vas pas pouvoir justement bah, créer du plasma, créer du sang qui te permet d'augmenter ton volume plasmatique. Donc, le truc de se dire, si je suis en période de sèche, entre guillemets, je pars courir à la chaleur, je me pèse avant, j'arrive après, j'ai perdu 2,5 litres, cool, j'ai perdu 2,5 litres. Non, parce que ces 2,5 litres que tu as perdu, il faut absolument les reprendre en rebuvant derrière. Et c'est d'ailleurs un paramètre qui est super simple à monitorer quand on s'entraîne et qu'on fait de l'acclimatation à la chaleur. On part courir, on se pèse, tout nu dans sa salle de bain, on va courir. Et puis quand on revient, on se repèse. Et tout le poids qu'on a perdu, en fait, il faut normalement le multiplier par 1,5. Donc style, si j'ai perdu 500 grammes, multiplié par 1,5, ça fait 750 millilitres. Et je dois boire ces 750 millilitres dans l'heure et demie qui suit la session. Quoi. Donc... on perd du poids, mais par contre, ce poids, il faut absolument le reprendre si on veut bénéficier des adaptations.
Eh ouais, ça c'est intéressant, parce qu'il faut toujours être vigilant sur cet aspect. Johan, c'est quelque chose que tu fais d'ailleurs, hein, l'hydratation, t'es vraiment,
oui.
t'es vraiment attentif justement tout de suite après la séance.
Hein. Ouais, et puis avec Greg, on fait les mêmes protocoles quand on est en hypoxie, c'est-à-dire qu'on se pèse avant, on se pèse après, et tu bois ce que tu bois pendant la séance, tu le soustrais, et après, effectivement, il est très vigilant par rapport à ça. C'est lui qui m'a vraiment mis cette routine en place pour justement éviter cette fatigue extrême de la déshydratation. La déshydratation, franchement, honnêtement, c'est quand même l'ennemi du coureur. Moi, je sais que je suis sujet aux tendinites, et je peux te dire que je t'assure que quand je suis en état de déshydratation, j'ai les tendons qui couinent. Je bois 2 gouttes d'alcool, c'est pas psychologique, hein, c'est vraiment, je le sais et je le sens dans mon corps quand je fais pas le taf et que je fais pas attention. Et la moindre déshydratation, moi, c'est il faut que je sois vigilant par rapport à ça. Ouais.
Ah, parce que boire de l'alcool, ça déshydrate, ça paraît fou, mais c'est important
ah ouais.
de le rappeler.
Ah, ouais.
ouais. ouais, il dit ça en rigolant.
Alors,
ça,
j'essaye de mettre de l'eau dans le jet,
le corps,
mais
aussi,
ça suffit pas.
Ah ouais, non.
Dans le Ricard.
Ouais. ouais, Greg, tu disais, ça déshydrate et...
Ouais, ça déshydrate et en plus ça acidifie le corps, tu vois. C'est pareil, ouais. dès que tu fais un peu moins le métier et que tu manges vachement acide, bah, tout ça, les tendons, ils ramassent vachement plus derrière. Mmh. Donc il faut vraiment, vraiment faire gaffe avec ça, quoi.
Toi, le spécialiste des données, Greg, quand tu mets en place un protocole chaleur ou quand tes athlètes, les personnes que tu suis, sont soumises aux conditions extérieures qui sont déjà délicates, quelles sont les données que tu surveilles principalement ? C'est la fréquence cardiaque ? C'est quoi ? C'est la fatigue musculaire ? Ouais, qu'est-ce que tu surveilles ?
Bah, déjà, on prend le poids du coup avant et après la séance. Mmh. Donc pour estimer un petit peu ce que l'athlète a perdu. On soustrait aussi ce qui a été bu pendant la séance, avec en faisant la différence en gros entre le poids avant et le poids après, et en enlevant ce qui a été bu, qui est du poids que l'athlète a repris entre guillemets pendant la séance, on arrive à estimer le débit de sueur, donc la quantité de sueur que l'athlète il a sué pendant la séance, pendant l'heure par exemple de séance. Donc ça, la quantité de sueur que l'athlète il est capable de produire pendant sa séance, c'est un bon indicateur d'acclimatation à la chaleur, parce qu'en gros, un des effets de l'acclimatation à la chaleur, c'est arriver à transpirer plus. Donc au plus on va transpirer, au plus on va être capable de refroidir la machine en fait.
Ah, ça c'est important.
Et donc, et ça c'est intéressant, voilà. Parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à dire plus tu transpires, c'est moins que tu es acclimaté, et en fait c'est l'inverse.
Eh ouais, c'est vrai, c'est l'idée aussi. Ouais.
Tu vois, on voit au début des athlètes en début de cycle d'acclimatation qui transpirent 700 ml à l'heure et à la fin ils sont à 2 litres à l'heure. Donc voilà, après il y a le revers de la médaille de ça, c'est-à-dire que beaucoup transpirer, ça te permet de beaucoup refroidir le moteur et donc de rentrer le plus tard possible en surchauffe. Par contre, bah, si tu perds beaucoup, il faut compenser sur un marathon. Du coup, il faut boire un peu plus pour arriver à compenser les pertes, quoi.
Mais est-ce que ça, c'est aussi très personnel, Greg ? Parce qu'on n'a pas tous la même façon de transpirer, tu vois. C'est que j'imagine qu'on est tous différents. Même si quelqu'un qui transpire peu, même s'il fait un vrai protocole, il va transpirer 2 litres sur une séance, quoi, tu vois.
Ben, il va transpirer plus que ce qu'il transpirait au début. Ce qui compte, c'est le différentiel entre la première et la 14e séance. En fait, tu vois.
Ok.
C'est ça.
Et un conseil qu'on peut donner, c'est que sur marathon.
Vas-y, Odile.
Pardon. Sur marathon par la chaleur, on m'avait dit surtout ne t'arrose pas. C'est-à-dire que si tu vois le réflexe qu'on a, c'est tu te dis ouais, vas-y, je mets de l'eau froide dans le cou pour refroidir le moteur. Mais en fait, tu bloques les pores, tu bloques la transpiration qui, justement, elle, comme le disait Greg, te permet de réguler la température corporelle et un peu de refroidir le moteur, c'est ça?
Ouais, et puis en course à pied, en fait, ce qui fonctionne limite le mieux, c'est juste de la glace localisée comme ils font. Bah, tu parlais du Tour de France tout à l'heure, en vélo, ils font beaucoup, tu sais, c'est juste la glace localisée dans la base du cou. Parce que dans la base du cou, il y a tout un centre nerveux qui permet aussi de dire au cerveau tiens, regarde, t'as du froid, t'as pas chaud, en gros, tu vois. Et c'est pour ça que juste mettre ces glaçons en localisé sans s'arroser de partout, mais c'est juste dingue, ces glaçons en localisé sur la base du cou, ça fonctionne pas trop mal, tu vois. Tu le vois beaucoup aussi en Ironman. Ironman, ils courent et ils ont des sortes de foulard autour du cou dans lequel ils mettent des glaçons.
Les marcheurs aussi font ça.
Dans la base du cou.
C'est vrai.
On l'a vu aux Jeux Olympiques, Ouais.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Mais alors, le coup de il faut pas s'arroser sur un marathon quand on a chaud parce que ça bloque la sortie de la transpiration, moi je l'avais jamais entendu, Johan. Hein, et c'est vrai qu'on l'a tous fait, prendre le verre d'eau, se le renverser sur la tête et se dire ça va me.
Ah, moi je l'ai fait aussi.
Ça va refroidir le moteur, mais pas du tout en fait. C'est contre-productif alors.
Bah, en course à pied, c'est pas ce qui est le plus efficace. En vélo, c'est assez efficace parce que tes vitesses de déplacement, elles sont beaucoup plus importantes.
Oui.
Et donc, du coup, toute l'eau que tu vas avoir sur la peau, que ce soit de la flotte que tu mets ou de la sudation, bah, ça va te permettre de mieux te refroidir parce que tu te déplaces vite. En course à pied, ceux qui courent le marathon à 21 à l'heure, ça peut un peu marcher. la plupart des gens normaux classiques, qui sont pas comme Yodu,
c'est sûr, c'est plus délicat pour les autres. On a parlé des bénéfices, de l'adaptation. Quels sont les risques ? On les connaît, les risques évidents, c'est la déshydratation, on en a parlé. Il y a les coups de chaleur. Les coups de soleil aussi, il ne faut jamais négliger un coup de soleil, Greg.
Ouais, le rayonnement est super important. Hein, et, Et justement, si on était sur une émission de télé et qu'on voyait Yodu en vrai, vous voyez qu'il a passé un mois à Font-Romeu et qu'il faisait très chaud. Il avait des coups de soleil de partout parce qu'à la montagne, en plus, ça rayonne beaucoup.
Ah ouais.
Mais ouais, c'est clair que le rayonnement est super important là-dessus. Et donc forcément, si vous avez des coups de soleil, bah derrière, votre peau transpire moins bien et donc l'efficacité de la sudation, elle est moins bonne.
Parce que c'est ça le risque, Johan, c'est d'arriver sur un lieu de vacances, commencer à s'entraîner, prendre un coup de soleil dès le premier jour et ensuite de s'entraîner sur le coup de soleil, avec ce coup de soleil présent sur le corps et le fait que la peau ne peut pas absorber justement toutes les quantités d'UV qui débarquent tous les jours, quoi.
Ouais, t'as chaud, t'es moins à l'aise. Clairement, les coups de soleil, c'est vraiment pas bon pour la santé, pas bon pour la peau, mais même pour les coureurs, il faut. T'as des gestes simples. Hein. Quand tu sais que tu vas partir, bah, tu te mets un peu de crème solaire, tu essayes de prendre de la crème solaire qui résiste à la transpiration parce que c'est ça le problème aussi, mais ça existe. Et après, bah, des fois, il vaut mieux peut-être privilégier de garder un t-shirt très léger, mais qui va te protéger de couleur claire plutôt que de se mettre torse nu, même si tu veux montrer tes pecs, tu vois, c'est un choix à faire. Ouais.
Enfin, ça concerne que toi, voire Maxime Abolin, notre producteur, mais sinon, nous, on garde le t-shirt quand on court. On n'a pas envie de sortir les pecs.
Vous assumez pas les bourrelets, vous.
Non, c'est surtout qu'on n'est pas allé pousser deux fois au Basic Fit, tu vois. Nous, on est conscient du corps qu'on a, tu vois, c'est ça l'histoire. Non, mais Greg, c'est vrai que courir torse nu, c'est déconseillé.
Bah, quand il y a beaucoup de rayonnement, ouais, parce que souvent on va prendre des coups de soleil assez rapidement, hein, c'est clair.
Quels sont les signaux qui t'alarment, toi, en tant que spécialiste d'ailleurs, Greg, quand tu vois quelqu'un s'entraîner sous la chaleur? Il y a aussi la température du corps. Est-ce que ça, tu y es vigilant? Les coups de chaleur, les nausées, voire les vomissements? Parce qu'on peut aller jusque-là d'ailleurs, hein, sur les symptômes.
Ouais, c'est des choses. Donc, la température corporelle, c'est quelque chose qu'on peut monitorer, avoir en direct à partir de différents capteurs. Mais après, il y a des signes cliniques assez faciles, comme tu disais, des nausées. L'autre jour en séance, j'ai eu une athlète qui après 40-45 minutes, a eu un petit peu des signes de nausées sur un moment où elle s'est arrêtée. Hop, on prenait un lactate pour contrôler l'intensité. Et naturellement, elle m'a dit, oh, bah, tiens, j'ai une petite remontée, machin. Et tout ça, c'est des signes d'avant-coureur, de début de coup de chaleur. Ouais. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être assez prudent. Après, tu le vois aussi à la tête de l'athlète. Tu vois, tu vois sa couleur de peau, l'athlète commence à blanchir. L'athlète commence des fois à plus être lucide. Tu vois, tu lui poses une question. Donc, c'est pour ça que pendant la séance, toujours, on essaye de parler avec les athlètes parce qu'à des moments donnés, tu vois les délais de réponse qui s'allongent, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est toujours des choses qui nous font suspecter que l'athlète, il commence à être en chaleur. Moi, aujourd'hui, à Font-Romeu, ça fait des années qu'on fait de l'hypoxie, ça fait un peu moins de temps qu'on fait de la chaleur. J'ai eu plus de, entre guillemets, malaise ou athlètes qui ont dû arrêter des séances en chaleur qu'en hypoxie à 5000 mètres.
Ah ouais, c'est ça. C'est plus dur à appréhender.
C'est plus dur. Hein.
Ouais, c'est plus dur. Et puis pour nous, en tant qu'accompagnants, c'est entre guillemets plus risqué et plus dangereux à surveiller, hein, cet aspect de séance chaleur.
Bah, tu l'as vécu, toi. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si le coup de chaud tombe, il y a des nausées, du vomissement, quel est le bon réflexe à adopter? Parce que toi, ça t'arrive, t'es à côté d'eux, ok, mais si on sort comme ça sur une route de campagne en pleine vacances, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, c'est refroidir le corps le plus vite possible. Donc, entre guillemets, le meilleur moyen de refroidir le corps le plus vite possible, c'est s'immerger dans la flotte.
Ouais.
Parce que l'eau, même si elle est entre guillemets un petit peu chaude, elle a un pouvoir conducteur pour évacuer la chaleur qui est beaucoup plus grand que l'air.
Okay.
Donc, je sais pas, si vous êtes sur la promenade des Anglais à Nice, hop, vous sautez dans la mer.
Attention, il y a des galets, vous allez vous faire mal aux pieds.
Si vous n'avez pas de piscine, Vous prenez des glaçons, vous les mettez dans la base du cou. Hein. Nous, on a des poches de glace directement dans la salle hypoxique ou la salle chaleur. Et directement, on applique des glaçons dans la base du cou pour essayer de faire descendre la température le plus rapidement possible. Il faut essayer de faire descendre. Donc, bien sûr, arrêter l'exercice, hein, forcément.
Ouais, ouais.
Essayer de descendre la température le plus vite possible. Et puis après, bien checker aussi, bien se réhydrater parce que souvent... Le problème, c'est que quand l'athlète commence à faire un coup de chaleur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a plus soif. Il n'arrive plus à boire.
Eh ouais.
L'athlète n'arrive plus à s'hydrater. Donc, c'est un peu le cercle vicieux, tu vois. Et si l'athlète vraiment n'arrive plus à s'hydrater, si vous n'arrivez plus à vous hydrater, il faut se rapprocher d'un service d'un service hospitalier pour percuser quoi, et faire en sorte que le corps se réhydrate.
Ouais, aux urgences, ils prennent en charge et ils peuvent réhydrater les corps rapidement avec une sonde, tout à fait. Bon, on n'espère pas en arriver là, évidemment, on ne vous le souhaite pas, si vous nous écoutez et que vous êtes en pleine période de
chaleur. Surtout à l'entraînement, c'est des choses qui peuvent arriver en compétition quand tu veux pousser la machine à l'extrême et que tu fais des efforts Ironman, marathon ou des trucs comme ça, mais à l'entraînement, il faut quand même avoir la vigilance de se dire, quand j'ai chaud, je ralentis, tu vois.
Justement,
gérer les allures.
Le coup de chaleur arrive, j'ai une flasque d'eau, donc tu me conseilles plutôt de la mettre sur ma peau plutôt que d'essayer de boire, Greg, si j'ai bien compris, pour refroidir le corps immédiatement.
Tout dépend de la température de la flasque, parce que si c'est du thé, il vaut mieux...
Du thé, tu vois, si qui part avec du thé
flasque...
Un thé à la menthe.
Mais si elle est très chaude.
Ah oui, d'accord, oui.
Tu cours depuis une heure.
Non, mais c'est sûr, quand tu cours avec ta flasque...
Elle se réchauffe. Ça devient dégueu pour tout le monde, c'est sûr.
Au bout d'une heure, elle va être à 35 degrés, la truc. Donc si elle est à la même température que ta peau, elle va pas trop refroidir, donc il vaut mieux la boire.
D'accord.
Si par contre, elle est fraîche, tu peux te la poser sur la nuque, etc. Quoi.
Tu sautes dans la Dordogne si t'as un problème, Yodu, ok. Chut.
Oui, mais là, t'as un autre problème, après, c'est de l'eczéma.
Moi, j'irai pas dans la Seine non plus, je te rassure.
Tu te jettes dans la Seine ? Non, la Dordogne, elle est propre, mais la Seine, imagine la Seine.
Ah, non, merci. Ouais, elle est propre. Oui, on les a vus, les bassins mis en place. Je sais pas si vous y allez, mais bon. En tout cas, si vous y allez, bon courage. On attend un feedback, ça, c'est sûr. On parlait également de l'alimentation. C'est important, pré- et post-course. Donc, tu l'as dit, on se réhydrate vite, 1h30 après l'effort. Greg, on boit de l'eau enrichie, on met des électrolytes, ce genre de choses, pour aller chercher du glucide, du sodium, etc.
Alors, le glucide, ça, c'est super important en fonction de l'intensité d'effort qu'on aura produit. Mais après les électrolytes, le gros avantage, c'est que quand on est déshydraté, les électrolytes, toute l'eau que vous allez absorber, si elle contient des électrolytes, ça va permettre de mieux absorber cette eau, que l'eau que vous buvez soit mieux absorbée par le corps. Ouais. Donc ça veut dire que souvent, ce qu'on conseille, c'est imaginez que vous avez perdu un kilo pendant votre séance chaleur ou votre séance en extérieur. Vous allez devoir boire 1,5 litre après votre séance. Et ce 1,5 litre, vous le mettez avec une petite pastille d'électrolyte. Ça va permettre au corps de mieux l'assimiler et aussi de compenser les pertes en minéraux que vous avez eues à travers votre transpiration, parce qu'on perd notamment pas mal de sodium.
Exactement. Johan, un cas concret avec toi, quand tu t'entraînes et qu'il fait très chaud comme ça chez toi et que t'es à Bergerac, quels sont les bons conseils que tu appliques ? Tu mets des vêtements clairs et aérés, j'imagine. Tu cours le matin ou le soir, t'évites les heures chaudes entre midi et 16h par exemple ?
Ouais, alors l'idée c'est ça, c'est si tu prépares pas de compétition à l'autre bout du monde, à la chaleur ou autre, ou des marathons où il fait chaud, effectivement tu cherches plutôt des parcours ombragés, tu vois, typiquement moi j'ai la chance d'avoir une voie verte en bord de Dordogne, et je te jure que la différence qu'il y a entre quand je rentre en centre-ville et que je suis au bord de la voie verte, à l'ombre avec la rivière à 10 mètres, je sens clairement que la température, elle a baissé de, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais 4-5 degrés, tu vois, je me sens relativement mieux. Donc, essayer de privilégier ce genre de parcours, moi, c'est ce que je fais. Et après, oui, il faut y aller tôt le matin ou tard le soir. Équipement, c'est toujours des couleurs claires et on évite le noir, vraiment ces trucs-là. Et après... C'est le après où, effectivement, là, je rejoins vraiment Greg. C'est lui qui m'a donné vraiment cette habitude-là de vraiment boire après l'effort et compenser toutes les pertes que je peux avoir après l'effort. Et là, je rajoute effectivement des électrolytes et je fais vraiment attention à bien compenser toutes mes pertes, parce que c'est vrai que dans les gens vont se dire « Ouais, super, j'ai perdu 1,5 kg, machin, je suis en train de m'affûter. » Mais comme ça revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est « T'as perdu que de l'eau, donc ça ne sert à rien. » L'idée, c'est quand même de courir avec sa petite flasque d'eau pour de temps en temps boire. Parce que voilà, si tu fais une sortie de 45 minutes, ça va. Mais dès que tu dépasses ce temps-là, pour moi, il faut quand même partir avec de l'eau. Si tu pars sur une heure, si tu pars sur 1h10, 1h15, il faut avoir de l'eau avec soi,
Greg, comment t'adaptes les allures alors sur un protocole chaleur ? Tu pars doucement, t'augmentes au fur et à mesure des séances, comment ça marche ?
Sur l'acclimatation à la chaleur, ce qui est important, c'est que ça ne sert à rien d'aller chercher des intensités vraiment folles. Ça reste vraiment sur de la basse intensité, donc
Au pire, c'est du seuil 1. Donc ça va très bien. Ce qu'il faut et ce qui est un marqueur, on va dire, super intéressant pour la clim à la chaleur, c'est vraiment l'utilisation de la fréquence cardiaque. Là-dessus, ça fonctionne vraiment très très bien sur la clim chaleur. Donc en gros, on se cale. Première session, on monte progressivement pour arriver, on va dire, quasiment à la fréquence cardiaque du seuil 1. On contrôle avec des lactates. Et puis après, par contre, ce que vous allez voir et ce qui va se produire avec, au sein de la session de chaleur, c'est qu'on va avoir une dérive de la fréquence cardiaque. Donc, c'est tout à fait normal en chaleur de, on va dire, une fois que vous arrivez, si vous arrivez à 130 battements par minute au bout de 20 minutes, par exemple, c'est tout à fait normal si vous restez à la même allure, exemple à 12 km/h, vous restez à ces 12 km/h pendant une heure, votre fréquence cardiaque elle va passer de 130 à 140, voire 145 BPM.
Bien
on
sûr.
Va avoir une dérive de la fréquence cardiaque. C'est tout à fait normal et c'est le stress qui permet au corps de s'adapter. Par contre, voilà, il faut toujours rester sur des niveaux, on va dire, d'intensité d'effort qui sont relativement faibles. Ça ne sert à rien d'aller chercher de la haute intensité.
C'est le meilleur conseil qu'on peut donner, Johan. Adapter les allures, hein, vraiment, quand il fait chaud.
Ah bah, adapter les allures et regarder sa FC. C'est sûr bah qu'elle ouais. ment pas. Il faut vraiment rester dans ses zones. C'est les zones, normalement, on les connaît quand on a l'habitude de s'entraîner. Et de rester, de pas regarder l'allure à laquelle on court, mais plutôt sa zone d'effort et son RPE, son ressenti. Tu vois, ça, c'est important. On se connaît, on a un ressenti généralement sur une séance de tempo entre 5 et 7. Eh bien, si j'ai prévu une séance de tempo, je ne regarde pas l'allure, mais ma perception de l'effort, elle doit rester entre 5 et 7 sur 10, tu vois. Et après, tu peux adapter la récup aussi. Si tu as prévu du fractionné, moi, le conseil que je donne, c'est d'allonger le temps de récupération entre les séries.
OK. Autre question, rappelle-nous ce qu'est le seuil 1, le SV1, le fameux. C'est quelle allure ?
C'est la zone d'endurance, en gros. C'est là où vous faites les footing récup plus, etc. Donc, on va dire que pour quasiment tout le monde, c'est entre 130 BPM et 145 BPM.
Okay.
Quoi. Ça se situe par là. Donc, c'est vraiment la zone tranquille. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi avec la chaleur, c'est que quand on n'est pas acclimaté, dans un environnement aux alentours des 38 degrés, par exemple, il y a des études qui montrent jusqu'à 30% de baisse de performance.
Ouais.
Ça, c'est vraiment super important. Hein. C'est que quand l'effort va se prolonger, la performance, elle va nécessairement diminuer. Donc, ça veut dire que vous devez nécessairement adapter les allures. C'est un peu comme l'altitude. On ne peut pas courir aussi vite quand on n'est pas acclimaté en chaleur que dans un environnement tempéré. Par contre, quand on est acclimaté, pas tout le monde, mais on arrive quasiment à retrouver sa perf quasi normale. Hein.
Ouais.
Arriver à avoir 2-3% de baisse de performance, c'est possible post-acclimatation.
Ça se travaille, mais c'est possible. Parce que les montres connectées le font désormais, Greg et Johan. On te donne ton pourcentage d'acclimatation à la chaleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est fiable ou il faut se méfier de ça, Greg, d'ailleurs ?
J'ai aucune idée des algorithmes qui sont derrière. Moi, mon Garmin, il me dit, vous êtes acclimaté à 7% à la chaleur. Comme il me dit, vous êtes acclimaté à 1600 mètres d'altitude.
Ouais.
Mais par contre, je ne sais pas du tout, en fait, les algorithmes qu'il y a derrière. En fait, le pourquoi est-ce que derrière, comment est-ce qu'ils annoncent ce chiffre-là, en fait, je ne le sais pas.
Ouais.
C'est pareil, en préparant le podcast, là, j'ai vu qu'il y avait un site qui te proposait un outil pour estimer l'ajustement de ta vitesse par rapport à la température. C'est-à-dire que tu rentres la vitesse à laquelle tu veux courir, la température et l'humidité, et lui, il va te dire il faut baisser de 10%, 12% et te calcule l'allure à laquelle tu dois courir. Mais ça peut être un bon outil, mais je ne sais pas pareil comment c'est calculé et si c'est fiable.
Et puis, est-ce que ça tient compte du taux d'humidité ? Parce que ça aussi, ça aura un impact sur…
Température et humidité, oui.
Ok, d'accord. Là, ouais. Ouais, donc, il faut… Bon, après…
Eight-pace calculator.
Le meilleur… Ouais, quel accent.
Putain, mais toi, t'es vraiment un geek, en fait. Hein. Tu connais tous les sites.
Ouais, ça fait peur.
Ah ouais.
Ouais, il est incroyable, ce mec.
Eight-pace calculator.
Allez, t'es là, hein. Incroyable. Bon, après, il faut toujours s'écouter, hein. Surtout dans ces périodes, si vous n'avez pas d'objectif précis, écoutez-vous.
Exactement.
C'est le principal conseil. Est-ce que tu peux nous résumer, Greg, en quelques mots, les bons conseils adaptés en période de canicule si on veut poursuivre l'entraînement, s'il te plaît?
Si vous préparez une course qui n'est pas en environnement chaud, dans ces cas-là, décalez vos entraînements tôt le matin, tard le soir. Entraînez-vous à l'ombre si vous avez la chance de courir à côté de la Dordogne. Mmh. Si jamais vous préparez un entraînement, une compétition en environnement chaud, au contraire, il faut aller vers la chaleur. Il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut adapter les allures. Il faut bien surveiller l'hydratation avec les pertes de poids avant, après, et bien boire après la séance pour complémenter. Il faut y aller progressivement. C'est au bout de 14 sessions qu'on est acclimaté. Donc, on fait 14 sessions basse intensité. Il faut profiter de faire de la basse intensité et de ne pas faire de la haute intensité pendant votre phase d'acclimatation. Et une fois que ça s'est passé, vous allez voir que même en conditions chaudes, vous arriverez à bien le vivre, à avoir des performances qui sont relativement intéressantes. Par contre, toujours, toujours, toujours bien contrôler son poids avant, après, pour ne pas finir déshydraté et bien se réhydrater après les sessions.
Ouais, ouais. Et insister sur le sommeil aussi, hein, parce que forcément, ça fatigue de courir sous la chaleur. Donc, il faut prendre le temps de bien récupérer aussi. Oui, Yvan.
Ça, c'est la difficulté d'y aller tard. Tu vois, si tu veux décaler tes séances, tu vas faire du fractionné à 20h. La difficulté, c'est que tu ne dors pas avant minuit, quoi. Si tu fais une séance de fractionné un peu intense, ça décale un peu le sommeil. Ouais.
Bravo les gars, vous avez été excellents. Restez là, on passe tout de suite au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Aujourd'hui, c'est la marque Ayak qui est mise en avant dans RMC Running, marque éco-responsable qui se spécialise dans les vêtements de ski, de rando et de montagne. Pour en parler avec nous, s'il vous plaît, un champion olympique de biathlon, Vincent Defrane, avec nous. Salut Vincent.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Ravi de te retrouver, Vincent, toi le fondateur de cette marque Ayak. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça bosse dur chez Ayak alors?
Ouais, tout va bien, ça bosse dur. On a plein de projets, plein d'actualités, donc c'est très sympa. Parce qu'en effet, tu as parlé de ski de rando, mais en effet, on a des vêtements de ski de randonnée, mais surtout de plein air. Et le plein air, il y a aussi l'été, la course à pied, et on est en plein là-dedans. Ça fourmille de projets, oui.
Bon, magnifique. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que représente la marque Ayak, ton idée de base quand tu as fondé cette marque?
Oui, mon idée de base, c'est de proposer des vêtements qui accompagnent toutes les activités de plein air. Moi, je suis épris, amoureux de nature, de sport, et j'adore mélanger les deux. Et j'aime beaucoup accompagner avec Ayak, avec nos vêtements. J'aime beaucoup accompagner les gens qui se font plaisir autant par l'activité, par le mouvement qui est fait, que par l'endroit où ça se fait, dans ces ces beaux espaces, ces belles immensités qu'on peut traverser, soit en course à pied, en randonnée, en escalade, que sais-je, à ski. Et c'est ce que j'ai voulu proposer, des vêtements qui sont précis pour accompagner ces pratiques, qui sont fiables, efficaces, bien sûr, mais aussi qui ont une grande et une profonde attention à l'environnement. Et c'est ça, Ayak, c'est l'amour des sports de plein air et l'envie de les pratiquer d'une manière intense, respectueuse.
Votre positionnement, c'est ça, c'est le respect de l'environnement et la durabilité des produits aussi. C'est-à-dire qu'un produit Ayak, on peut le garder longtemps et s'en servir des années.
Oui, c'est ça. Pour plein de raisons, on a envie de faire des vêtements robustes et durables. Déjà robustes parce qu'il faut que ça soit fiable, il faut que ça tienne. Quand on va en montagne, quand on va en haute montagne, quand on va dans le désert, on a besoin que le vêtement il soit au rendez-vous et fiable. Et puis ces vêtements, finalement, on voit qu'ils ont une histoire avec nous. Quand on fait un trail, quand on fait une ascension, eh bien on a une petite histoire avec son vêtement. Donc on a envie de les garder, ces vêtements. Alors autant pour un côté environnemental, de moins produire mais mieux produire, que pour vraiment cet amour du vêtement qui accompagne nos pratiques. Donc tout ça, ça fait une cohérence qui nous amène à vouloir faire des vêtements robustes et durables, en effet. Oui.
On met en avant aujourd'hui le débardeur Tenno. C'est un de vos classiques chez Ayak. Est-ce que tu peux nous en parler? On s'en doute, ça doit être très léger. L'intérêt, c'est la matière, la respirabilité. C'est un de vos produits phares, Vincent?
Oui, c'est un produit que j'aime beaucoup. J'en suis très fier parce que très agréable. J'étais encore hier en course à pied avec. Et c'est vrai que le débardeur pour courir par temps chaud ou pour se balader par temps chaud, c'est quand même un vêtement très approprié. Mmh. Et on a réussi à marier une belle matière recyclée, italienne, des finitions hyper confortables. Et ça, c'est le débardeur Tenno. On a même décliné ce modèle dans une gamme qu'on a appelée la gamme Stamina, la gamme Endurance, et avec encore plus de légèreté, encore plus d'aération grâce à des perforations laser. Enfin, si tu me lances là-dessus, ça peut durer parce que je suis passionné de ces matières.
On sent la passion.
Ouais. Qu'on met en œuvre. Mais voilà, le débardeur Tenno, en effet, si on peut le faire gagner à quelqu'un, ce serait super sympa parce que j'en suis très fier.
Ah bah c'est à nous de te remercier parce que c'est ce qu'on va faire, à gagner un exemplaire. Au niveau des coloris, tu as plusieurs choix à proposer. Tu as du sobre et puis des couleurs un peu plus vives, quoi.
Oui, c'est ça. La gamme Stamina, on la décline en noir ou en blanc, et même en noir et blanc. Et c'est un peu cette idée d'endurance, d'être dans la pureté, dans la simplicité. C'est pour ça qu'on s'est inspiré du noir et du blanc pour cette gamme Stamina. Et puis, ce débardeur Tenno, il existe aussi pour la randonnée, et dans des couleurs un peu plus calmes, un peu plus adaptées à la pratique de la randonnée. Donc, il y a du bleu, il y a un beau bleu éclatant, très, très éclairé. Il y a un vert qu'on appelle le Green Mist. Ici, là, je vous parle depuis le bureau de Hayak dans les montagnes du Jura. Et on est beaucoup inspiré des couleurs qu'on voit.
Il est beau le vert, hein, moi je l'ai sous les yeux.
Le Green Mist, il est venu du brouillard du matin.
Magnifique, franchement, bravo. Magnifique produit. On le retrouve d'ailleurs sur votre site, je précise l'orthographe, Hayak, A-Y-A-Q. Vous avez d'autres vendeurs ou c'est principalement sur votre site qu'on peut acheter vos produits, Vincent?
Ah non, alors on a plein de boutiques partenaires, il y en a une centaine. Que ça soit en France, en Autriche, en Suisse ou ailleurs encore. Mais donc, il y a la possibilité de retrouver sur le site les vêtements, mais aussi les revendeurs. Il y en a forcément un qui n'est pas très loin de chez vous. Donc, on a la chance d'avoir un beau réseau de partenaires qui conseillent des vêtements techniques, qui ont envie de faire avancer l'écologie dans le vêtement. Donc, en effet, il y a le site, mais il y a aussi tous les partenaires revendeurs.
N'hésitez pas, allez sur le site Hayak, voilà, pour ces beaux produits et ce débardeur Tenno, grande valeur. Donc c'est un beau cadeau qu'on vous offre cette semaine de RMC Running, 55€, un produit qui a une durée de vie très longue. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous allez sur Instagram et vous repostez donc les extraits de cet épisode. N'hésitez pas, merci beaucoup. Vincent, tu reviens quand tu veux dans RMC Running et comme ça on pourra mettre en avant cette belle marque que tu as fondée, Hayak. Merci Vincent.
C'est très sympa, merci à vous. Bye bye.
Et un grand merci à Greg Doucente qui était avec nous, le professeur génial de Font-Romeu, du Krebs de Font-Romeu, voilà, le responsable du protocole hypoxie et chaleur, consulté par de très nombreux athlètes, hein, Johan. Tous les athlètes de l'équipe de France passent entre ses mains, dans sa salle de torture.
Ah, ben c'est ça, ouais. Tu passes dans sa salle de torture, t'es obligé, c'est lui le boss.
Moi j'ai tenu 7 minutes hein, quand je suis venu en octobre, à vous de faire mieux, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, vous allez
7
le voir.
Minutes.
Et après j'ai vu Johan Durand enfiler des crocodiles, voilà, au moins une dizaine de crocodiles.
Non, c'était des schtroumpfs.
Des schtroumpfs, en
plus. Ah non, mais ça c'est pareil, c'est les conseils de Greg, il faut ramener des...
Ah, c'est vrai.
Du sucre direct.
Du sucre direct. Merci Greg, bonne journée à toi, bonne fin d'été et bon courage pour ton travail parce qu'on espère que tu vas nous amener les athlètes français au top. Merci au maître Yodu, merci à tous également pour votre soutien indéfectible pendant l'été. Méfiez-vous si vous courez sous la chaleur, mais surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.